le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un œil sur le gouvernement, l'autre sur la rue. L'exécutif occupé au remaniement regardera également aujourd'hui ce qui se passe dans la première mobilisation syndicale de la rentrée contre la politique d'Emmanuel Macron. Témoignage de retraités dans quelques instants.
Et puis la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Une ombre au tableau de l'économie mondiale, c'est ce qu'annonce ce matin le FMI, pessimiste aussi sur la croissance en Amérique latine.
Et au Brésil, les marchés financiers ont salué hier la très grosse performance du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, largement en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche. Google, à son tour, touché par une faille, 500 000 comptes exposés, des données personnelles d'internautes peut-être hackées. Vous entendrez les explications à la fin de ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, disparition du patron d'Interpol, que révèle cette affaire? On posera la question à Guillaume Fard, spécialiste de questions de sécurité et défense à Sciences Po.
Il accorde un satisfecit au gouvernement français pour les réformes qu'il mène. Le Fonds monétaire international revoit néanmoins à la baisse sa prévision de croissance pour la France pour cette année et pour 2019. 1,6% de croissance, un demi-point de moins par rapport aux précédentes prévisions d'avril. Reflet, selon le FMI, d'une demande extérieure plus modérée sur fond de guerre commerciale sino-américaine. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Le FMI alerte donc sur les surtaxes douanières que Washington et Pékin s'imposent mutuellement. Depuis des mois maintenant, cette guerre commerciale va faire fléchir l'an prochain et en 2020 la croissance américaine, pourtant robuste cette année.
Oui, sans guerre commerciale, la croissance du produit intérieur brut américain serait de 2,7%, ce qui est le record de toutes les économies dites avancées. Et avec la guerre commerciale, on sera, selon le FMI, à 2,5%. Alors la différence peut sembler faible en pourcentage, mais si on calcule en valeur, le PIB américain étant et de loin toujours le plus élevé du monde, cela fait une différence de 40 milliards de dollars environ. Et pour les industriels américains, notamment dans l'automobile, puisqu'on va en parler aujourd'hui, ces taxes ont déjà des répercussions. Côté chinois, même chose, le FMI estime que le PIB sera, du fait de cette guerre commerciale, 0,2 points de croissance en moins. Mais là, on part d'un chiffre encore plus impressionnant, inquiétant, même si on se place un instant du côté des climatologues du GIEC qui ont rendu leur rapport hier. La croissance du PIB chinois l'an prochain devrait atteindre 6,2%. Le commerce et l'investissement sont les principaux moteurs de la croissance mondiale, rappelle le FMI, qui s'inquiète de l'effet sur la confiance de cette guerre commerciale. La croissance en volume du commerce mondial devrait être de 4,2% cette année, 0,5 points de moins que prévu, mais croissance quand même, on est donc loin d'un retournement.
Et le FMI, Marie, est encore plus pessimiste pour l'Amérique latine. Récession et hyperinflation encore au Venezuela. Crise financière encore en Argentine.
Oui, Argentine et Venezuela, ce sont les deux économies malades de la planète. Au Venezuela, la confiance a totalement disparu et l'État n'a plus les moyens d'extraire correctement ce qui fait sa seule richesse, le pétrole. L'inflation doit, en 2018, selon le FMI, dépasser les, je ne sais même pas comment le dire, 10 millions de pourcents, après 1000% en 2017. Le produit intérieur brut, lui, poursuit sa chute libre, 18% de baisse cette année, après 14% l'an passé et 5% prévu encore l'an prochain. En Argentine aussi, le FMI anticipe une contraction du PIB de 2,6% cette année et 1,6% l'an prochain, mais une baisse amortie en partie grâce à lui, puisque le Fonds monétaire a consenti un prêt de 57 milliards de dollars à l'Argentine. Enfin, le Brésil, lui, est sorti du marasme quand on s'attache à cet indicateur phare du rapport du FMI, la croissance du PIB. La récession est derrière et la croissance revient cette année et l'an prochain. Mais la grève des routiers du printemps dernier a eu un réel impact, prévient le FMI, et qui rappelle que tout mouvement de ce type représente un risque pour les perspectives à venir.
Marie Viennot, merci. Vous parliez du Brésil et l'on peut réécouter sur franceculture.fr votre chronique ce week-end, la bulle économique consacrée au programme libéral de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite à la présidentielle au Brésil, qui a su séduire les patrons et fédérer, chose inédite, les puissants milieux évangéliques. Jair Bolsonaro arrivait très largement en tête du premier tour de la présidentielle dimanche, devant le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro qui a promis hier soir de rester esclave de la Constitution et de gouverner avec autorité sans autoritarisme. Sa performance électorale a en tout cas été saluée par les marchés à la bourse de Sao Paulo, rassurée donc par la Bible économique de Jair Bolsonaro. Les précisions de notre envoyé spécial au Brésil, Olivier Poujade.
Derrière l'ancien militaire se cache un front parlementaire très connu ici, le BBB. Trois initiales pour bœuf, balle et bible. Une alliance active et influente au Congrès brésilien qui se bat pour la défense des valeurs traditionnelles, de l'agro-business et qui milite pour la libéralisation des armes. Depuis hier, avec la percée de Bolsonaro, cette alliance a obtenu la garantie de devenir le deuxième groupe le plus puissant à la Chambre des députés. Plus de poids donc pour appuyer le programme du candidat d'extrême droite, obtenir l'annulation du statut de désarmement, lutter contre l'extension du droit à l'avortement, ce qui lui a d'ailleurs valu ce surnom de Trump tropical. Mais à la différence du président américain, le Brésilien a placé toute sa politique économique entre les mains d'un gourou ultra-libéral, totalement hostile au contrôle de l'État et qui a donné naissance au chemin de la prospérité. La bible économique de Bolsonaro, qui prévoit de privatiser 150 entreprises publiques pour en finir, dit-il, avec toute forme d'activisme social.
7h06 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins et c'est la première mobilisation syndicale de la rentrée. Salariés, lycéens, étudiants et retraités sont appelés à faire grève aujourd'hui et à manifester dans toute la France.
Appel interprofessionnel lancé par la CGT, Force Ouvrière, Solidaire, l'UNEF, la Fidèle et l'UNEL contre la destruction du modèle social par l'exécutif. Les syndicats veulent organiser d'autres mobilisations par la suite, mais déjà, Philippe Martinez, à la tête de la CGT, prévient que le succès de la manifestation d'aujourd'hui ne se résumera pas au nombre de manifestants. Elle reste en tout cas déterminée. Yvette et Janine, deux retraités, dénoncent une baisse de leur pouvoir d'achat à cause de la hausse de la CSG et d'une moindre revalorisation de leur pension.
635 euros j'ai par mois. J'ai travaillé, j'avais 15 ans. Jusque l'âge de 62 ans, j'ai travaillé. On a bossé toute notre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien. C'est parce que nos pensions sont gelées. Ça fait moins 5 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation. Et si on a une augmentation, c'est de 0,2. Alors même 0,3, ce n'est pas assez. Il faut faire attention à tout. On ne peut plus sortir, on ne part plus en vacances, on ne fait plus rien, quoi. Alors là, je suis... écœurée.
Pour moi, c'est vraiment la fin de tout ce qui était les grandes valeurs de la France, l'intergénérationnel, la solidarité. On sent qu'il y a quand même un poids vraiment très fort de faire des économies sur le monde des salariés, le monde des retraités, plutôt que faire des économies ailleurs. Puis on nous explique aussi qu'on vit longtemps, donc ça c'est dramatique quand vous expliquez à un retraité qui vit longtemps. Alors s'ils vont longtemps, il faut qu'ils travaillent plus longtemps, alors qu'on a travaillé et quand on est à la retraite, on a un droit à cette autre vie.
Une mobilisation intergénérationnelle, interprofessionnelle observée par l'exécutif aujourd'hui. L'exécutif occupé par ailleurs au remaniement après la démission la semaine dernière de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Combien d'entrants et combien de sortants au gouvernement? Réponse attendue dans les prochaines heures. Casse-tête autour de ce casting. Analyse à suivre dans le journal de 7h30. Focus à présent sur la pression qui s'exerce de plus en plus contre l'Arabie Saoudite après la disparition la semaine dernière d'un journaliste critique du pouvoir de Riyad, le Saoudien Jamal Khashoggi, qui collaborait régulièrement pour le Washington Post. Selon la police turque, il aurait été tué à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Les États-Unis appellent aujourd'hui à une enquête approfondie et transparente de la part de Riyad. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan met lui les autorités saoudiennes au défi de prouver que Jamal Khashoggi a bien pu quitter le consulat saoudien à Istanbul. La correspondance en Turquie d'Anand Lower.
Après avoir temporisé dimanche, disant vouloir attendre les résultats de l'enquête, Recep Tayyip Erdogan hausse le ton face à l'Arabie Saoudite, qui dément toute implication dans la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Les autorités saoudiennes affirment qu'il a quitté leur consulat d'Istanbul peu après y être entré, mais la police turque semble désormais convaincue que Jamal Khashoggi a été tué sur place. Ils ne pourront pas s'en sortir en disant simplement qu'il a quitté les lieux, a lancé le président turc depuis Budapest, où il tenait une conférence de presse avec le premier ministre hongrois Viktor Orban. Avant d'ajouter, en s'adressant toujours aux responsables saoudiens, « S'il est parti, vous devez le prouver avec des enregistrements vidéo ». Depuis que le journaliste est porté disparu, mardi 2 octobre, l'Arabie Saoudite soutient que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas ce jour-là dans le consulat d'Istanbul. Les autorités turques, qui ont mobilisé sur l'enquête une cellule spéciale composée de policiers et d'agents de renseignement, ont demandé officiellement à fouiller l'enceinte diplomatique. Sans grand espoir sans doute de découvrir la moindre preuve, puisque le prince héritier saoudien lui-même, Mohamed Ben Salman, leur en avait fait la proposition. Quant au président turc Recep Tayyip Erdogan, en pressant les Saoudiens à s'expliquer sur l'affaire, il cherche avant tout à éviter une crise diplomatique majeure, alors que les relations sont tendues entre Ankara et Riyad. Une telle crise semble inévitable si la justice conclut que le régime saoudien a utilisé le territoire turc pour éliminer une voix critique.
Anand Lauer à Istanbul pour France Culture. Des bougies autour d'un portrait d'une journaliste à présent, Victoria Marinova, dans le centre de Roussé, une ville du nord de la Bulgarie. Des centaines de personnes ont rendu hommage hier soir à cette jeune femme de 30 ans, retrouvée étranglée et violée samedi, alors que les autorités bulgares sont confrontées à de récentes accusations de corruption. Elles étaient sous pression hier pour élucider ce meurtre qui suscite des réactions indignées en Europe. À Malte, cela fera bientôt un an que la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia a été assassinée suite à l'explosion de sa voiture. C'était le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, trois hommes sont sous les verrous, mis en examen pour avoir organisé cet assassinat, mais il manque plusieurs éléments. Le mobile et le ou les commanditaires de cet assassinat. La cellule investigation de Radio France a pu recueillir le témoignage de deux personnes affirmant qu'elles avaient vu le ministre de l'économie maltais discuter avec Alfred De Giorgio, l'un des hommes qui se retrouve aujourd'hui incarcéré et suspecté de l'assassinat de la journaliste. Contacté, le ministre Chris Cardona a refusé de s'expliquer sur ces informations qu'il juge absurdes. Il nie toujours avoir jamais rencontré l'un des assassins présumés de la journaliste. D'après la cellule investigation de Radio France, aucun homme politique n'a été entendu dans cette enquête par la police maltaise. Google surprend en annonçant la fermeture de son réseau social Google+, annonce hier soir, quelques minutes après des révélations embarrassantes du Wall Street Journal sur des failles dans la sécurité cachées par le géant américain. Les explications à Washington de Pierre Evuga.
Le Wall Street Journal révèle que Google a caché à ses usagers la découverte en mars dernier d'une faille dans la sécurité de son réseau social Google+. Des données personnelles relatives à au moins 500 000 usagers de Google+ ont pu être exposées pendant 3 ans à des développeurs extérieurs à Google. Il s'agit des noms, adresses e-mail, date de naissance, sexe, photo, domicile et profession de ces internautes. En revanche, leurs messages, leurs numéros de téléphone et d'autres formes de communication sont bien restés protégés. Le quotidien des affaires a consulté des documents internes à Google démontrant la crainte de l'entreprise d'être entraînée en mars dans la controverse qui accablait alors Facebook. Le réseau social était bombardé de critiques pour avoir mal protégé les données relatives à 87 millions de ses usagers. En ne disant rien, Google espérait échapper aux questions des régulateurs et des législateurs américains. Toutefois, il ne semble pas que cette démarche est enfreint la loi américaine.
Pierre-Yves Dugas, Washington pour France Culture. Le temps de ce mardi 9 octobre, calme et ensoleillé sur la moitié nord de l'Hexagone. De fortes pluies orageuses persisteront près de la Méditerranée. L'Aude, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange d'ailleurs. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 12 degrés en général du nord au sud. Cet après-midi, comptez de 20 à 27 degrés, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.